Les infos à Washington.
Au micro, Nanit Talani, il est 17h à Bujumbura, au Burundi. Bienvenue à ce journal. En RDC, au moins 16 personnes opposées à l'idée d'un maintien au pouvoir du président Joseph Kabila au-delà du terme de son mandat ont été arrêtées hier et aujourd'hui vendredi à Kinshasa après une conférence sur le respect de la constitution et l'alternance dans le pays. C'est ce qui sort de la déclaration de José Maria Anaras, directeur du bureau conjoint de l'ONU aux droits de l'homme en RDC. Jeudi, hier, l'Organisation de défense des droits de l'homme Amnesty International avait accusé les autorités congolaises de mener une politique de répression systématique contre ceux qui réclament le départ du président Kabila au terme de son mandat le 20 décembre prochain. Le porte-parole du gouvernement congolais, Lambert Mende, a déclaré être surpris par ces accusations en faisant valoir que les autorités avaient fait libérer en août plusieurs détenus politiques. Toujours en RDC, l'Alliance pour le salut du peuple congolais, parti issu de l'ex-mouvement rebelle, exige que le dialogue national soit réellement inclusif. Pour cette formation, la mise sur pied d'un gouvernement au terme d'un dialogue non inclusif ne résoudra pas la crise dans le pays. Écoutons Baravuga Salomon, secrétaire général aux relations extérieures de l'ASP.
Les parties prenantes de l'accord cadre d'Addis Abeba doivent être représentées à ce dialogue, tout comme toute l'opposition congolaise doit être représentée, vu qu'aujourd'hui, à partir du 19 décembre, il n'y aura plus d'institutions légitimes dans ce pays. Nous devons arriver à gérer ce trou qui va exister dans le pouvoir congolais, où le pays est privé de toute forme d'institution légitime et démocratique, étant donné le glissement qui a déjà été conditionné et sanctionné par le pouvoir et l'opposition depuis 2011. Que veut dire élection en RDC quand nous avons des millions de personnes qui meurent dans des camps de réfugiés dans les pays voisins? Quand on a des milliers et des millions de citoyens congolais qui sont chassés des camps de déplacés intérieurs dans le Nord Kivu, des camps qui sont brûlés par les autorités, qui ne proposent aucune solution alternative aux citoyens congolais?
C'était Baravugu Salomon de l'Alliance pour le salut du peuple congolais en RDC. En Libye, le général Khalifa Haftar a défrayé la chronique ces derniers jours avec la prise de contrôle des terminaux pétroliers du pays. Qui est-il et que veut-il? Les enjeux de l'imbroglio libyen avec Hélène Bravin, elle est chercheure associée à l'Institut Prospective et Sécurité en Europe à Paris.
Aujourd'hui, ce général est désormais incontournable, ne serait-ce que parce qu'il a entre ses mains une manne pétrolière très importante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, sur le terrain, Haftar a gagné des points. Mais alors, politiquement, est-ce qu'on va aller vers une réconciliation? Alors, sur le plan du pétrole, il y a des projets d'unification des deux NOC qui ont été relancés depuis deux jours. Donc là, c'est bon signe. Mais alors, est-ce que politiquement, les choses vont se faire? Aujourd'hui, on est dans une phase où les acteurs se calment, où ils évaluent effectivement leurs forces. Il faut tout de suite enclencher un dialogue pour effectivement donner une chance à ces acteurs, qu'ils soient aujourd'hui forts ou affaiblis, de dialoguer.
Hélène Bravin est chercheure associée à l'Institut Prospective et Sécurité en France, à Paris. Avec l'objectif de collecter 13 milliards de dollars, le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme a débuté ce vendredi à Montréal, au Canada. Ses travaux pour financer les traitements et venir à bout de ces épidémies d'ici 2030. Les 13 milliards de dollars vont couvrir les opérations courantes entre 2017 et 2019 pour mettre fin à l'épidémie du sida conformément aux engagements des Nations Unies. Les dirigeants politiques, mais aussi le milliardaire et philanthrope américain Bill Gates, figurent parmi les invités vedettes. Sur plus de 100 pays où sont menés les programmes du fonds, 70% des sommes engagées vont aux pays africains qui supportent le plus lourd fardeau. C'est ce que souligne cette faisant porte-parole du Fonds mondial. Le Nigeria, la République démocratique du Congo, le Kenya, l'Afrique du Sud, la Tanzanie et l'Ouganda sont les pays qui reçoivent le plus d'aide pour lutter contre les épidémies.
VOA Afrique en direct de Washington.
Au Pakistan, au moins 23 personnes ont été tuées ce vendredi lorsqu'un kamikaze a déclenché une charge explosive au cours de la prière dans une mosquée d'une zone tribale au nord-ouest du pays. C'est ce qu'a fait savoir un haut responsable des autorités tribales, Naved Akbar. L'attentat s'est déroulé dans le village de Boutmaïna, dans le district tribal de Mouhom, une zone frontalière de l'Afghanistan où l'armée combat les talibans. 4 enfants de 10 ans ou moins figurent parmi les morts. Un couvre-feu a été imposé dans cette zone isolée et éloignée. L'attentat n'a pas encore été revendiqué, mais les talibans pakistanais s'en prennent régulièrement à des cibles vulnérables comme les tribunaux, les écoles et les lieux de culte. Le premier ministre Nawaz Sharif assure que les lâches attentats des terroristes ne briseront pas la détermination du gouvernement à éliminer le terrorisme. Les dirigeants mondiaux vont se retrouver à partir de lundi à New York pour tenter d'améliorer le sort de millions de migrants et réfugiés et de trouver une issue à 5 ans de carnage en Syrie. La 71e Assemblée générale des Nations unies est la dernière pour Barack Obama et pour l'actuel secrétaire général Ban Ki-moon, à qui l'ONU cherche un successeur, Anne Albertson.
Ban Ki-moon présidera lundi le premier sommet onusien consacré aux migrations, alors que le monde connaît la plus grande crise migratoire depuis la Deuxième Guerre mondiale. Le président américain invitera mardi ses pairs à accueillir davantage de réfugiés, à leur offrir des possibilités d'éducation et d'emploi et à se montrer plus généreux envers les principaux pays d'accueil. Les 193 pays membres devraient conclure un pacte mondial pour se répartir l'effort. Mais le projet de déclaration finale ne fixe pas d'objectif chiffré. L'ONU lancera à cette occasion une campagne mondiale contre la xénophobie. Seuls les pays donateurs, au moins 45, ont été invités au deuxième sommet présidé par Barack Obama. On attend de nouvelles contributions de la part des États-Unis, de l'Allemagne, de l'Argentine, de la Corée du Sud et de la Banque mondiale. D'avance, des organisations comme Amnesty International ou Human Rights Watch ont prédit que le sommet onusien serait une occasion manquée, voire un échec pitoyable.
En attendant, des camions remplis de nourriture et de médicaments pour les habitants assiégés d'Alep en Syrie étaient toujours bloqués ce vendredi à la frontière turque sur fond de friction entre Washington et Moscou sur l'application de l'accord de trêve entre le pays en guerre. Le président Barack Obama devra réunir dans la journée son équipe de sécurité nationale, dont ses secrétaires d'État John Kerry et à la Défense Ashton Carter, pour faire le point sur cet accord qui vise à favoriser une solution au conflit très complexe qui a fait plus de 300 000 morts en plus de 5 ans. Ici, aux États-Unis, le président Barack Obama est né aux États-Unis, point final. C'est une phrase qui provient de Donald Trump. Il a reconnu ce vendredi que le président Barack Obama était bien né aux États-Unis. C'est donc un point final qu'il refusait d'apposer depuis des années et qui lui valait des accusations de racisme. Le candidat républicain pourrait ainsi mettre un terme à une invraisemblable controverse. Depuis des années et jusqu'à jeudi soir, le milliardaire refusait absolument de reconnaître le fait documenté que Barack Obama est né à Hawaï d'une mère américaine et d'un père kényan. Il avait alimenté cette théorie du complot visant à délégitimer son élection en 2008, prenant la tête d'un mouvement d'idées, Birthers, considéré très largement comme raciste, puisque Barack Obama est le premier président noir des États-Unis. La Constitution est ambiguë, mais beaucoup estiment qu'elle stipule que le président doit être né sur le territoire. L'absurdité du débat sur son lieu de naissance n'a pas amusé Barack Obama. Pour lui, il a déclaré aujourd'hui que l'élection présidentielle, il aimerait bien que l'élection présidentielle porte sur des sujets plus sérieux que celui-là. Mais en tout cas, on peut estimer que le débat est désormais clos. Donald Trump vient de reconnaître que le président Barack Obama est bien né aux États-Unis et d'après la Constitution, Il est donc un président légitime. Il peut diriger les États-Unis, même s'il s'en va dans quelques mois. C'est ici que s'achève ce journal. Je vous retrouve dans moins d'une heure pour un nouveau point d'actualité, donc pour une nouvelle édition du journal. Mais en attendant, vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook et aussi vous pouvez visiter notre site internet voaafrique.com. Restez à l'écoute de votre radio de tous les jours.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.